Pour la troisième saison de Parents pour la première fois, le balado est commandité par l'entreprise Bien chez soi, une entreprise de soutien à domicile qui appartient à ma sœur. Bien chez soi offre notamment des services de nounou qui comprennent l'aide au repas et aux devoirs, l'entretien ménager et des soins pour les personnes plus vulnérables. À la suite d'une consultation gratuite et personnalisée, un ou une préposée qui correspond à vos besoins est sélectionné afin de créer un lien de confiance et de stabilité entre les préposés et les clients. Les services sont éligibles à des crédits d'impôt allant jusqu'à 75% de la facture. Je vous invite à aller visiter le site internet www.bienchezsoi.ca pour plus d'informations. Bienvenue à Parents pour la première fois. L'invitée de cette semaine est Nancy Caouette, maman trois fois et entrepreneur. Allô Nancy!
Allô!
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ben, ça fait plaisir, merci. Merci de m'avoir invitée.
J'avais hâte de te parler parce que, comme on en parlait juste avant, sur ta plateforme Instagram, autant sur ton compte personnel que sur Little Yogi, je trouve que tu dis vraiment les vraies affaires. Tu as l'air d'avoir une aisance, une capacité aussi de réfléchir, de te poser les vraies questions, l'introspection et tout ça. Est-ce que je te décris bien quand même en disant ça?
Oui, ben, très bien.
Ouais?
ouais, vraiment. Je te glisse un petit mot tantôt. Je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, explorer, réfléchir, aller au fond des choses, me remettre en question. Je suis souvent gossée par tout ce qui effleure un sujet. Là, où j'aime ça quand les gens se positionnent, quand vont vraiment aller expliquer comment ils vont penser par rapport à quelque chose. Puis, tu sais, tu dis, ah, j'étais à l'aise. Je suis pas nécessairement à l'aise de le faire. Quand je fais un post, par exemple, sur Instagram, souvent, j'ai souvent le syndrome de l'imposteur, comme je suis qui, moi, pour parler de ça de toute façon.
Non, je comprends.
Il y a toujours aussi la peur de...
D'être jugé,
puis de créer quelque chose, tu sais, que les gens soient pas d'accord avec toi, puis que ça fasse en sorte qu'ils t'aiment pas ou qu'ils n'aiment pas ton produit parce que la valeur que tu véhicules ne correspond pas à la leur. Fait que j'aime le faire, mais c'est toujours insécurisant. Puis je le fais pas genre parce que je suis super à l'aise. Je le fais vraiment parce que des fois, ben, les conversations, je trouve qu'elles sont importantes à avoir. Ou des fois, c'est pour aller sonder l'opinion des autres. Il y a tout le temps plein d'objectifs derrière ça.
Ouais.
Je t'ai dit un peu tantôt, puis ça me revient en tête. C'est soit que tu aimes ça, le fait que j'ai au fond des choses ou que j'ai toujours des longs textes. Ou soit tu trouves ça lourd, puis t'es vraiment OK. Là, ça peut-tu finir? Là, tu peux-tu juste dire genre salut, ou est-ce ma famille? Non.
Ben, moi, j'adore ça, honnêtement. Puis, tu sais, comme tu dis, ça passe ou ça casse parce que c'est pas tout le monde non plus qui veut faire cette introspection-là. Moi, j'aimerais ça que tout le monde en fasse une d'envie, une introspection, se poser les bonnes questions. Et des opinions, tu sais, je veux dire, c'est correct d'avoir ton opinion, chacun a son opinion, puis en tout cas, mais non, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais, puis tu sais, même tes publications par rapport à la maternité, c'est beaucoup ça qui a fait comme, mon Dieu, je veux lui parler à elle, tu sais, je veux en apprendre plus. Puis je me souviens aussi, on s'était vu à ton premier lancement, je pense, en tout cas, Émile venait de naître, là. Je pense qu'il y avait comme 3 mois, puis on s'était rencontrés. Puis même cette journée-là, t'sais, on avait eu une bonne discussion sur l'accouchement par césarienne, je m'en souviens, parce que moi aussi, j'ai accouché par césarienne. Puis je sais pas comment qu'on était venu à ce sujet-là, mais tu vois, moi, j'aime ça. Moi, tu sais, on se connaissait pas, mais let's go, on rentre dans les vraies discussions, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on va faire aujourd'hui.
Yes.
Donc, tu es maman 3 fois. Est-ce que tu as eu 3 accouchements par césarienne ou par voie vaginale aussi?
Non, en fait, la finalité de mes accouchements a toujours été la césarienne.
OK.
Et dans le fond, par 2 fois, j'ai tenté d'avoir un accouchement vaginal.
Ouais.
Le premier s'est terminé en césarienne d'urgence. Le deuxième était un AVAC.
Okay.
Et le troisième était une césarienne planifiée.
OK. Ah, OK. Fait que
c'est 3 césariennes dans 3 contextes différents.
Exactement. T'as-tu envie d'élaborer là-dessus? Le premier, quand tu dis que c'était une césarienne d'urgence parce que le travail était long, ça faisait...
Ouais, ben écoute, c'est un melting pot de tellement d'affaires. Ça a été Mon premier accouchement, en fait, a été vraiment traumatique, là. Genre, j'ai dû en consulter pendant très, très longtemps. Mm. Puis, je dirais que j'ai comme résolu ce trauma-là avec l'accouchement de Marley, qui est la césarienne, qui a été la césarienne planifiée. Mais, ouais, dans le fond, à mon garçon, c'est né. Puis là, ce que, tu sais, je fais comme un aparté parce que ça n'a pas rapport avec la césarienne, mais c'est le fun de le savoir. Nous, on est allé en fertilité pour notre premier enfant.
OK.
Donc, ça a pris 3 ans avant que je tombe enceinte de Sydney, mon premier. On a dû aller en clinique de fertilité. Dans le fond, on n'avait pas de diagnostic. On était genre infertilité non expliquée.
OK.
Après 3 ans d'essai. Fait que, tu sais, juste tomber enceinte pour moi, ça a été toute une affaire. Là. Ça a été difficile. Ça a été difficile moralement. Ça a été difficile sur le corps parce que, bon, tu sais, il y a la prise d'hormones, etc. Tu sais, je me rappelle encore les premières fois quand j'avais l'insémination. J'étais comme, mais comment je vais expliquer à mon enfant qui est né? Tu sais, puis aujourd'hui, tu sais, je dis à mon garçon très. Avec beaucoup d'humour, ben il y avait un docteur avec une seringue, puis on a mis le petit œuf. Mais je trouvais ça très difficile au départ d'avoir à passer par tout ça.
Mais je veux qu'on en parle aussi là, de tout ça. Je ne savais pas, tu vois, on en apprend tous les jours. Mais OK, fait que t'es allée en clinique de fertilité. Est-ce que t'es allée dans, mettons, après un an d'essai de tomber enceinte, t'es allée rapidement dans une clinique ou...
Ben, dans le fond, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étudiais en sexologie.
OK.
J'avais fini mes études en sexo à ce moment-là. J'étais en train de faire un programme de deuxième cycle en psychologie périnatale et un de mes gros projets traitait de l'infertilité.
OK.
Puis, c'est comme arrivé tout de suite après ça. Puis là, on dirait que j'avais tellement d'informations. Ça n'a pas été long. Là. Je pense qu'au 12e mois, j'étais comme, OK, le Marc, on n'est plus dans les statistiques. Ça fait un an. Genre, il faut faire quelque chose.
Okay.
Alors là, on est allé consulter après la première année, mais ça a pris une autre année avant qu'on décide d'aller faire les traitements. Parce que là, on était genre, OK, comme on peut-tu enlever un peu de pression? Là ça, c'était rendu, tu sais, ça m'habitait constamment, tout le temps. Puis j'étais comme pas là encore de dire on va y aller avec les procédures médicales. Puis tu sais, on va pas se le cacher, les procédures sont presque à 100% sauf un au niveau de la femme. Là. Okay. Les tests sont faits sur les femmes, c'est des tests qui sont parfois très exclusifs. Fait que tu sais, il y a une cause d'infertilité au niveau de l'homme, tu sais, par rapport à la qualité ou le nombre de spermatozoïdes. Mais là, quand on va au niveau de la femme, ben, il y a tellement de possibilités que. Tu as beaucoup de tests à faire. Okay. Puis une fois que les tests sont faits, puis que moi, je les ai tous faits en disant, ben everything's fine, tout est bon, et tu es juste infertile, puis on ne sait pas pourquoi. Ben, en fait, vous êtes infertile, mais on ne sait pas pourquoi. Okay. Ça, là, c'est un tout autre sujet sur lequel on pourrait parler tellement longtemps, mais à quel point l'infertilité pèse beaucoup sur les épaules de la femme, justement, même quand c'est inexpliqué. Tu sais, moi, j'avais des commentaires des fois de mon entourage, c'est parce que tu es végétarienne, c'est parce que tu travailles trop, tu dors pas assez. Tu sais, c'était tout le temps, puis là, j'étais genre, qui dit ça, mon chum, là, comme, calme-toi le pompon, monsieur, parce que tes spermatozoïdes, ils sont pas assez performants. Il y a personne qui faisait ces commentaires-là, mon chum. Là.
Ouais, non, anyways, un autre sujet.
un autre sujet. Fait que, on a comme pris une autre année d'essai, juste nous deux ensemble, puis finalement, même peut-être un an et demi, là, finalement, on a commencé les tests. On a eu besoin d'aller faire 2 cycles. Heureusement, on a été dans la gang des gens super chanceux. Là. On a eu 2 inséminations, puis la deuxième, elle a été... c'était Sydney, dans le fond. Là. Fait que ça a fonctionné relativement très, très rapidement. C'était couvert par l'assurance maladie. Fait que, tu sais, on a comme été chanceux à travers tout ça.
OK. Donc, comment tu te sentais de devoir aller avec une clinique de fertilité? Puis ton chum aussi là-dedans, comment que vous vous sentiez? Tu sais, moi, je vois aucune gêne à ça, tu sais. Puis j'aime ça qu'on en parle. Il faut en parler parce que c'est tellement une chose que plusieurs couples vivent.
Mais
là,
tellement.
Franchement.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis comme contente d'en parler. Puis je sens zéro malaise par rapport à ça. Je me dis, mais mon Dieu, il faut tellement qu'on en parle. Il faut tellement que ça soit abordé souvent, tu sais.
Ouais.
Mais j'étais tellement mal quand j'étais dedans. J'arrivais comme pas à en parler aussi parce que ça venait avec quand même, tu sais, une certaine douleur, là, puis un deuil de dire, tu sais, à ce moment-là, tu ne sais pas si tu vas en avoir un enfant, puis ça fait 3 ans que tu essaies d'en avoir un. Fait que ça vient avec quand même une charge émotive qui est très, très présente. Mm. Puis il y a tout l'entourage, tu sais, là, c'est ça, on parle, tu sais, de la mi-vingtaine, que un petit peu, tu sais, fin vingtaine, T'sais, tout le reste de tes amis, on commence à avoir des enfants, la famille commence à avoir des enfants. Fait que les gens sont mal à l'aise. T'sais, je me rappelle une de mes amies qui m'a annoncé qu'elle était enceinte en pleurant parce qu'elle se sentait mal. Puis j'étais genre, mais sens-toi tellement pas mal de ça. Puis je sais qu'il y a certaines personnes qui vivent l'infertilité de façon amère quand
c'est
les
ça,
autres.
C'est ça, j'allais dire. Ouais.
Mais moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. J'ai toujours été contente de me dire, hey, tu vas le vivre. Puis d'une certaine façon, ça va peut-être être ça le plus proche que je vais être d'avoir une relation avec un enfant. Fait que je suis vraiment contente.
Mm-hmm. Ben, bravo à toi aussi de savoir un peu, comment je pourrais dire ça, c'est pas... T'sais, clairement, tu es contente pour tes amis. C'est une belle qualité là, aussi de ne pas tout prendre personnel. Puis tu sais, un peu... Comment je pourrais dire ça, avec jalousie. T'sais, je trouve qu'une des émotions, en tout cas, que j'aime pas du tout, c'est dans la vie, c'est la jalousie. Là. Mon Dieu, que ça te fait faire plein d'affaires, puis ça te donne tout plein. Ah, en tout cas, fait que bravo à toi quand même là, d'avoir fait.
Ben, merci, mais on dirait qu'il n'y avait pas d'autre façon de le vivre que ça à ce moment-là pour moi. Mais ce qui était très difficile, c'est que les gens m'en parlaient pas. Les gens avaient leur propre malaise par rapport à ça, puis ils ne savaient comme pas comment jongler avec ça. Puis,
c'est délicat, tu sais, ouais. Tu as peur de blesser l'autre personne aussi, tu sais.
Puis en même temps, c'est très difficile d'arriver avec des gens, puis de faire comme, ah, ben, tu sais, on est en cycle, tu sais, on est en train de faire nos cycles pour l'insémination. Mon chum m'a piqué hier, puis là, ça fait 5 jours que je suis sur ma dose d'hormones, fait que je me sens vraiment... on dirait qu'il n'y a comme pas de place vraiment pour le déposer. À ce moment-là, j'étais moins active aussi, tu sais, réseaux sociaux et compagnie. Peut-être que ça aurait changé un peu mon expérience parce que sur ma plateforme personnelle, souvent, je vais me permettre d'être un peu plus vulnérable ou justement d'aller plus loin à l'écrit parce que c'est facile, c'est un médium qui est plus facile pour moi. Mais ça, ça a été difficile. Comme l'environnement extérieur qui ne savait pas trop comment faire ou comment m'en parler. Puis ça a été intense. Puis sur le couple aussi, tu sais.
C'est ça, j'allais te demander, oui. Votre couple, à vous, comment que vous êtes passé au travers de cette épreuve-là, quand même, disons-le?
Ben, je dirais que ça a été des up and down. Puis, je vais quand même être obligée de le dire que si ça n'avait pas abouti à avoir des enfants, je ne suis même pas certaine qu'on serait encore ensemble aujourd'hui.
OK, parce que toi, tu voulais absolument des enfants, puis lui aussi, est-ce que c'était ça?
Ben non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'avais plein de projets, tu sais, sur la table. Je venais de lancer l'état yogi, ça faisait pas si longtemps que ça. Fait que j'étais super stimulée. Puis à un moment donné, ma tête a commencé à faire un deuil de se dire, ben, tu sais quoi, peut-être que j'en aurais pas d'enfant. Puis tu sais quoi, peut-être que c'est correct que j'en aurais pas. Tu sais, dis la fille qui en a eu 3 en 3 ans après. Là.
Ouais.
Mais... on dirait qu'à un certain point, il y a eu comme une cassure pour moi de dire, ben, you know what, je pense que je suis capable d'avoir une super de belle vie, même si je n'ai pas d'enfant. Fait que ça l'a amené une certaine distance avec mon chum aussi, que je savais que c'était très souffrant pour lui, qu'il en voulait vraiment.
Okay.
Il n'extériorisait pas beaucoup, ça se manifestait plus dans ses attitudes ou tu sais, comme... Mon chum pourrait parler de son expérience à lui, mais on l'a comme vécu différemment. À un moment donné, moi, je suis arrivée à un point où je faisais plus un deuil, puis là, de dire, ben, regarde, on s'en va faire nos tests en fertilité, on va l'essayer. Si ça marche pas, genre, moi, je vais pas m'embarquer là, sur des cycles à pu finir pendant des années. Puis il y avait un côté de moi aussi qui trouvait ça tellement injuste d'avoir à subir toutes les procédures, les effets secondaires, la pression extérieure. Puis c'est toujours quelque chose qui me trigger, moi, l'équité. Puis là, tu sais, je veux dire, ça peut pas être 50-50 dans l'histoire de la maternité pour porter un enfant. Là. C'est de même la vie, mais mon cerveau est configuré d'une façon que ça me faisait quand même réagir. Tu sais.
Ben oui, oui.
Fait que... Exact. Puis après ça, ben finalement, ça a fonctionné. On avait droit à 3 essais, dans le fond, d'insémination. La deuxième fois, ça a fonctionné.
Comment tu as réagi quand ça a fonctionné? Comment vous avez réagi? Tu étais chez toi, puis tu as réalisé, tu étais comme...
Ouais.
Puis tu as réalisé.
Ouais, c'est exact. Ça a été comme automatique. Je t'avais montré le... le positif à mon chum, les deux ont pleuré, on capotait, là, c'était... J'en avais mal au cœur d'émotion. Là, ouais.
Genre juste vraiment... là, j'ai des frissons parce que je me dis, tu sais, c'est ça, vous attendiez un peu ce moment-là, puis là, finalement, il arrive, tu sais, c'est quand même... C'est...
Ouais, c'était grand, là, c'était vraiment grand, puis tu sais, je sais que avant d'aller faire les essais, dans le fond, qui était pour moi la case finale, là, tu sais, notre couple était un peu so-so parce qu'on se rejoignait moins dans comment on vivait cette épreuve-là, mais depuis qu'on a eu des enfants, tu sais, mon chum, c'est mon partner, je trouve que c'est un père incroyable, là, vraiment, comme à tous les jours, je me dis merci d'être le père que tu es avec nos enfants. Je suis vraiment contente qu'ils grandissent avec un modèle d'homme comme mon chum. Ah. Ça me rend vraiment, vraiment heureuse. Mm. Puis on c'est sûr que là, on va pas. Ça, c'est un autre sujet, là, comment se retrouver en tant que couple avec de jeunes enfants, mais je pense pas qu'on a eu un point où on s'est senti autant heureux non plus. T'sais.
C'est ça.
Même si c'est pas dans la proximité physique, on sort, puis tout ça, c'est vraiment dans autre chose. Là.
C'est ça. Ouais, les temps changent, puis tu développes une autre façon de connecter. T'sais. Oui, c'est plus familial, mais c'est ça, on dirait que ça nous remplit tellement aussi. C'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. De se retrouver comme nous, on est trois, avec les trois ensemble, tu sais, je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais, de souvent, les gens vont me dire, ben là, tu sais, c'est important ton couple, puis oui, c'est important. Genre, à 100%, je suis d'accord. Mais d'avoir cette pression-là sociale de genre, hey, prends au moins, tu sais, une journée par semaine ou une soirée par semaine pour te retrouver seule avec ton couple, moi, ça me mettait plus de pression que d'autres choses, tu sais. Dans le sens que.
Tellement.
On va sortir en couple quand, ça, pour vrai, on va se parler puis on va se dire, hey, genre, ça me tente, là, pour vrai. T'sais, on ne va pas se mettre non plus une pression de devoir faire quelque chose parce que supposément que c'est ça qu'on veut faire. T'sais, tu comprends ce que je veux dire?
Tellement. Un exemple concret de ça, je me rappelle être sortie. J'avais juste June et Sydney à ce moment-là, puis on avait fait garder les enfants, on était allés manger au restaurant, puis genre, j'ai pleuré cette soirée-là au restaurant. Un, j'étais hyper anxieuse d'aller manger parce que je me disais, qu'est-ce qu'on va se dire? On dirait que on est tellement envahis de notre quotidien en ce moment avec les enfants. Ça roule, mon chum aussi a sa business. Fait que, on est comme toujours dans l'action. Puis j'étais tellement fatiguée. Je me disais, mais ce que je veux, là, c'est faire garder les enfants pour dormir. Ouais. Mais je sens une pression à aller manger avec toi pour qu'on connecte. Mais en ce moment, tout ce que je suis capable, tout ce que j'ai besoin, c'est de me reposer. Finalement, on avait ouvert là-dessus. Puis, tu sais, j'avais comme pleuré. Puis mon chum, il avait comme fait, tu sais, je comprends tellement. Puis je suis à la même place que toi, là. Comme, on peut-tu s'enlever la pression, là?
C'est ça.
Comme, je pense qu'on fait une bonne job, on est une bonne équipe, on sait qu'il va falloir, on s'aime, tu sais, on s'aime profondément.
Ouais.
On va devoir travailler, c'est sûr, pour retrouver comme, tu sais, plus la connexion, puis, tu sais, le côté plus amoureux, plus que team, tu sais. Mais c'est quelque chose qu'on parle, qu'on est capable de voir, de rationaliser aussi.
Ouais. Puis, la communication, là, vraiment, d'être capable de parler de ces choses-là, là, complètement, ouais. Si on revient donc à tes récits d'accouchement, donc première fois, ça tourne en césarienne d'urgence. Tu disais que c'était une expérience un peu traumatisante. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu de qu'est-ce qui a été?
Oui, ben, dans le fond, à 37 semaines, j'avais comme des rashes, là, j'ai pas le mot
français,
sur mon corps partout. Ça me piquait. Puis ma docteure à ce moment-là m'a dit. Écoute, on va aller te faire passer les tests de cholestase parce que ça fait partie d'un des symptômes.
La cholestase
de grossesse, c'est en fait c'est le foie qui élimine les déchets dans le sang directement. Là, il ne fonctionne plus comme il devrait. C'est une condition propre à la grossesse. Ça arrive quand même assez fréquemment. Et quand je suis allée à l'hôpital, dans le fond, ils n'ont pas été capables. Ben, il y a deux choses. Un, les tests. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il n'était pas hyper fiable, que même qu'il y avait des symptômes cliniques, dans le fond, qui pouvaient être considérés comme une cholestase, même si le test sortait négatif, mais aussi le temps que le test sorte positif, que le test soit sorti des laboratoires.
Oui, les résultats, là.
Les résultats, ça, c'était trop long. Donc, okay. Ils préféraient me provoquer à 37 semaines parce qu'il y avait un danger pour le bébé. Comme les déchets s'éliminaient directement dans le sang, okay. Ça, c'est un danger potentiel pour le bébé.
Je comprends, OK.
Alors, à 37 semaines... Là, c'est vraiment... Genre, mettons, je vais faire l'histoire courte parce qu'on a 3 accouchements passés, là, mais... à 37 semaines, je me suis rendue à l'hôpital avec toutes mes affaires. Puis tu sais que tu faut peut-être te faire provoquer parce que c'est dangereux pour le bébé, fait qu'il faut qu'il sorte.
Ouais, fait
puis là, je suis arrivée avec toutes mes affaires, puis on m'a retournée chez moi en me disant « On s'est trompé dans ta DPA. » Puis là, j'étais comme... Tu sais, j'ai été inséminée. « Vous êtes trompée dans ma DPA. » Tu sais, il y avait comme un peu de flou à travers tout ça. Tu sais, okay. J'étudiais en sexo puis en périnatalité. Puis là, il essayait de me dire « Ouais, mais le spermatozoïde est vivant pendant 5 jours. Oui, mais pas l'ovule. » Puis j'ai été inséminée, tu sais. Fait qu'à un moment donné, vous me dites que c'est dangereux. Il faut que je sois, tu sais, déclenchée sur le coup. Puis là, vous me retournez chez nous pendant un autre 4 jours. Moi, en me disant « Coudonc, je suis en train d'empoisonner mon bébé, là. » Tu sais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça a comme parti l'expérience un peu plate. Finalement, je suis retournée à l'hôpital 4 jours plus tard. Dans le fond, toutes les choses là, pour me provoquer ont été mises en place.
Okay.
Puis j'ai été en travail pendant 27 heures.
OK.
Et à la fin, dans le fond, j'étais dilatée à 9, mais le col enflait, puis la tête du bébé allongeait.
OK.
Mais la descente se faisait comme puis il n'y avait plus de dilatation. Puis là, bon, le cœur du bébé commençait à décélérer. Fait que là, on m'a dit, bon, on va commencer à te faire pousser même si tu es à 9, mais sache que tu risques fortement. Puis autre détail, dans le fond, le nez du bébé était par en haut.
Okay.
Fait qu'il y avait comme une problématique de plus, dans le fond, à l'accouchement vaginal. Ils ont essayé de tourner le bébé, mais il n'était pas capable. Fait que c'est ça. Fait que ça s'était vraiment, vraiment, vraiment bien passé, même pendant les 27 heures. Puis quand j'étais rendue à 9, j'étais comme, je verrais pas pourquoi, dans le fond, j'accoucherais pas par voie vaginale.
Ouais.
Puis il y a comme un élément qu'on ne saura jamais si c'est anecdotique ou si ça a eu un réel impact, mais on dirait qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours su que ça avait eu un impact. La docteure qui m'avait retournée chez moi 4 jours avant et celle qui est venue prendre le relais au moment de la poussée, puis déjà, ça a installé une espèce de gros froid dans la salle.
Mmh.
Elle s'est comme présentée en disant « Ben oui, c'est moi la docteure qui t'a retournée chez vous le 4 jours. » Avec comme pas d'empathie, pas de délicatesse.
Ça met pas un vibe, là.
Non, vraiment pas.
Ouais, pour vulgariser
puis,
la chose.
J'étais rendue à pousser, puis j'étais quand même consciente de l'atmosphère, puis j'étais quand même capable de me dire « Voyons, sinon, ben, elle est plate, tu sais. C'est pas ce à quoi je suis censée de réfléchir au moment de la pousser. T'sais, c'est non, pas là comprends. Que mes énergies devraient être.
Ouais.
Elle était installée devant moi, les bras croisés.
Tu pouvais pas dire « Hey, pas elle, va-t'en, quelque chose? » Moi, je pense...
Ben, puis tu sais...
Dans tous tes états.
C'est ça. Puis tu sais, il y a comme... Je me suis vraiment rendu compte aussi avec mon premier accouchement à quel point... j'étais un peu sous l'emprise, tu sais, de l'absolu médical.
Ouais, ouais,
je vous fais 100% confiance, puis prenez les décisions un peu à ma place, puis j'avais ouais. de la misère même à mettre des limites, ou j'avais un plan de naissance, ça l'avait été critiqué, puis j'avais de la misère à tenir, mettons, ce que je voulais, je me sentais coupable, tu sais. Fait que... ça a été l'expérience un peu plate au moment de la poussée, puis pendant longtemps, en fait, je me suis dit, si ça avait été une autre personne, est-ce que ça aurait été différent? Puis, c'est pas la faute, de la personne, on le saura jamais. Là. La docteure, elle est chez elle, puis je pense qu'elle se rappelle sûrement pas de Nancy Cowett qui était allée en césarienne. Là,
ouais. Mais c'est elle qui a peut-être changé la donne parce que tout d'un coup, tu n'étais plus dans ta bulle en train de focusser juste sur, mettons, le fait d'accoucher. Tu avais comme tous ces souvenirs-là de comment tu n'avais pas aimé, comment tu avais été. Prise en charge,
Puis dans l'attitude même, au moment de la poussée, la docteure était les bras croisés avec moi, les jambes écartées, puis en disant...
Mais voyons donc!
Ben oui, je t'ai dit, fait que j'étais genre, mais voyons, pourquoi est comme ça?
Oui, change d'attitude.
Genre, c'est ça, pourquoi tu me parles de cette façon-là?
Oui.
Puis, tu sais, j'étais genre, c'est-tu correct? Je suis pas sur la bonne façon?
Ouais.
Je posais ces questions-là en train de pousser. C'est, on dirait que je sais pas.
Je
m'attendais peut-être à « Vas-y, t'es bonne,
ouais,
lâche
c'est
pas,
ça.
Ça se passe bien!
Ouais. »
Comme le
ben,
narratif
valeur,
qu'on est
comme...
habitué d'entendre.
Ouais. Mais elle était un peu nonchalante, on dirait, de la manière que tu le dis.
Très froide, nonchalante.
C'est ça.
C'est ça. Puis...
Ouais,
alors,
dommage,
finalement, au bout de tout ça, le gynécologue est rentré dans la salle. Il m'a dit, là, je vois comme pas vraiment d'autres options. Le cœur du bébé décélère. Il va falloir qu'on aille en césarienne.
Okay.
Voici ce qu'il y en est.
Comment alors, tu l'as pris, ça, sur le coup?
Ben, j'ai trouvé ça difficile. C'était une de mes craintes.
Okay. T'avais
mais
peur
je me disais,
de l'accouchement par césarienne? Ou...
J'avais peur de l'accouchement césarienne. J'en ai eu encore plus peur après,
okay.
parce que ça a été un cauchemar, là, en salle d'accouchement, ça a été vraiment un cauchemar. Je suis arrivée sur place, l'anesthésiste qui était là m'a fait le test pour savoir si j'étais bien gérée. Je disais, ah, on dirait que je sens quand même un peu, tu sais, c'est normal que tu sentes une pression. Il dit, sinon, je t'endors. Là, moi, j'étais, tu sais, je veux pas manquer tout ça. Fait que j'ai dit, ben non, c'est correct. Mais finalement, j'étais pas assez gelée, dans le fond, pour la procédure. J'ai
okay.
perdu connaissance. Moi, je pensais que j'étais en train de mourir, là. Ça a été...
Oh, non.
Ouais, fait que j'ai perdu connaissance. Okay. J'ai pas vu mon bébé. Tous les premiers moments ont comme... Je les ai pas vécus, tu sais. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Vraiment. Mm. Ouais.
Je suis désolée d'apprendre ça. Je sais que ça n'a pas dû être évident pendant
non,
tout.
Ça a été plusieurs mois, honnêtement, à pleurer à tous les jours. Puis, tu sais, j'allais voir ma docteur, puis je disais, tu sais, j'ai besoin que tu entendes, je ne suis pas en dépression postpartum. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie avec mon bébé. Je le regarde, j'ai jamais senti cette vague-là d'amour, mais c'est pairé à l'expérience la plus difficile et la plus traumatisante de toute ma vie. Fait que c'est comme si je pleurais de « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais jamais voir mon bébé. En même temps, je l'ai dans les bras, puis je suis comme... C'est incroyable. Fait que ça a été beaucoup d'ambiguïté. Puis, tu sais, mon chum m'expliquait tous les jours comment ça s'était passé. Puis, tu sais, des petits détails. Il rajoutait des choses. « Ah oui, ça m'en revient. » Fait que ça m'a beaucoup aidée. Mais ça a été extrêmement traumatisant. Extrêmement traumatisant.
De ne pas pouvoir être comme, c'est ça, présente, vivre ces moments-là, mais aussi peut-être parce que ton accouchement n'a pas été, tu sais, à la hauteur de tes attentes aussi, peut-être. Est-ce que c'était ça que...
Ben, il y a ça, puis c'est la peur de mourir qui a pris toute la place, là, tu sais, après,
imagine.
De ne pas voir mon bébé, il y a des choses que je ne suis pas encore capable tant de dire à voix haute parce que ça me rend vraiment émotive.
OK, c'est encore... OK.
Oui, ben tu sais, j'en ai parlé en thérapie. J'essaie de overcome un peu tout ça, le souvenir que j'en ai, en fait, parce que c'est ça qui est souffrant. C'est le moment où je me suis dit, ah ben je pense pas que je ne vais pas me réveiller. Ça a été tough.
OK.
Ouais.
Puis, est-ce que tu sens que... Comment je pourrais dire ça? Ça serait quoi ton conseil pour les mamans, mettons, qui nous écoutent en ce moment? Puis, tu sais, parce que je dis tout le temps que c'est bien aussi de visualiser, tu sais, l'accouchement que tu veux avoir, mais celui aussi que tu ne veux pas avoir, parce qu'on le sait, hein, je veux dire, même si tu te prépares à un accouchement X, ben ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Tu sais, il faut vraiment comme se préparer à toute éventualité. T'aurais-tu, c'est ça, comme un conseil à donner aux mamans qui pourraient passer par là? Ce serait d'aller chercher de l'aide, justement, avec en thérapie, pouvoir en parler.
Définitivement. Je pense en amont, il y a tout un travail des professionnels de la santé dans l'accompagnement des suivis de grossesse à faire aussi, puis de faire de la place à la césarienne, à l'éventualité de la césarienne.
Ouais.
Parce que au niveau statistique, là, c'est un petit peu plus en haut de 20%, je pense, là, qu'il y a des accouchements qui se terminent en césarienne.
Ouais.
Puis c'est comme si on parle, OK, voici comment ça se parle, les stades de l'accouchement, blablabla, et il y a la césarienne.
Ouais.
Mais la césarienne en tant que telle, il y a plusieurs étapes, puis je pense que les femmes peuvent être accompagnées puis guidées en amont, même si ce n'est pas leur plan initial. Il y a une possibilité que ça aille là. C'est super que la possibilité soit là parce que, je veux dire, on sauve des vies aussi.
Oui, oui.
Donc, comment on peut accompagner? Comment ça se passe? À quel moment on décide d'aller en césarienne? Pourquoi? T'sais, le cœur qui décélère, c'est assez commun dans les récits d'accouchement qui se sont terminés en césarienne. T'sais. Donc, expliquer, c'est quoi les critères? Comment ça va se passer? Qui va être là? Ton chum va rentrer ou ta blonde, quand est-ce qu'ils vont rentrer dans la salle avec toi? Il y a tout ça, je pense, qui est pertinent d'expliquer aux femmes dans leur suivi de grossesse.
Tellement.
Pour que déjà, on ait un narratif, un autre narratif possible que celui qu'on voit presque tout le temps, tu sais.
Oui.
Puis après ça, ben oui, il y a d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter, de se faire raconter son accouchement quand on n'a pas pu y être, c'est très réparateur, c'est super important. T'sais, de savoir que ton enfant a été bien malgré le fait que toi, tu n'étais pas là, c'est ça aussi, c'est important. Fait que poser des questions à votre accompagnateur, à votre chum, à votre blonde, c'est comme ça s'est passé comment, puis qu'est-ce qu'il a fait en premier, puis qui a touché, puis tu sais, tout ça. Idéalement, avoir le plus de photos possible, fait que le téléphone dans la salle, tu sais, avoir des photos, avoir des vidéos pour vraiment pouvoir coller des images à ce nouveau narratif-là. Puis une césarienne, ça peut se planifier aussi, tu sais. Moi, j'ai vécu, bon, la césarienne d'urgence, celle qui était suivie de mon AVAC, qui n'était pas planifiée, mais qui n'était pas d'urgence non plus. Puis j'ai vécu celle que j'ai planifiée vraiment, mais fait garder en tête, OK, si je vais en césarienne d'urgence, il y a des petites choses que j'ai quand même le droit de demander. Tu sais, la personne qui est avec moi dans la salle, là, elle a le droit de couper le cordon ombilical. Si bien sûr, la situation le permet, là, tu sais, si le bébé n'est pas en danger ou quoi que ce soit, mais vous pouvez même demander d'avoir de la musique dans la salle d'accouchement. Tu sais, il y a plusieurs choses. Moi, je m'étais faite une petite liste, puis vous pourrez. J'ai fait un post là-dessus sur mon Instagram personnel où j'ai vraiment fait une liste à mon médecin avant d'accoucher pour dire OK, voici. J'avais peut-être une dizaine de points là, à valider avec elle. T'sais, entre autres, bon,
ah, oui, je m'en souviens.
Je peux-tu avoir un calmant quand je vais rentrer, là, pour vous donner quelque chose,
oui,
pour gérer mon anxiété.
Ben, c'est-tu toi? Après, je pense que c'est après avoir lu ta publication que j'étais comme, ben mon Dieu, on pouvait te demander ça. J'en aurais pris un calmant, moi aussi, à ma césarienne.
Oui, puis en plus, dans la procédure, il y a un des médicaments qui est administré qui donne le chèque. Ça ne le fait pas à tout le monde, mais moi, je me rappelle vraiment avoir des grosses, grosses, grosses
secousses. Ah oui, moi aussi. Ouais, moi aussi.
Ben, le calmant enlève ces secousses-là.
Ah.
Fait que ça, ben, en tout cas, pour moi, ça a eu cet effet-là quand j'ai eu ma césarienne planifiée. Fait que tu sais, il y a comme plein de choses qui peuvent être circonscrites. Moi, j'ai parlé à l'équipe d'anesthésie une semaine avant ma procédure. J'ai eu un appel avec eux autres où on est passé à travers toute la chirurgie pour me dire comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'elle allait me donner, qu'est-ce qui allait être fait, etc. On a pris ce temps-là pour en discuter ensemble puis voir ça allait être quoi mon plan de traitement, dans le fond, selon les circonstances un peu. Là, je vais quand même dire que c'était à Sainte-Justine. Alors, c'est un hôpital qui est fantastique au niveau de l'accouchement, puis tu sais, du suivi des mamans et compagnie. Donc, mon premier accouchement n'avait pas été à Sainte-Justine. Avec le trauma que j'ai vécu et compagnie, j'ai décidé d'aller vers une autre institution. Puis en racontant mon histoire à Sainte-Justine, j'ai été prise en charge tout de suite. Puis tu sais, l'humanité, la bienveillance, l'empathie de tout le monde, ça a fait la différence. Là, c'est incroyable, incroyable.
Puis dans un moment comme ça, c'est tellement important de se sentir soutenu, de se sentir accompagné, puis que les gens qui nous entourent sont bienveillants et tout ça. On en avait parlé aussi dans d'autres épisodes que, tu sais, si t'es pas à l'aise avec ton médecin, change de médecin, tu sais. C'est vraiment important, là, tu sais, tu dois pas subir tout ça. Faut que, tu sais, t'as le choix de changer de médecin. Tu peux le faire, tu sais.
Oui, vraiment. Puis c'est ce qui avait guidé justement de m'en aller à Sainte-Justine parce que je suis tombée enceinte de June, née avec 14 mois.
OK.
Et
Est-ce que c'était planifié? Est-ce que vous vouliez des enfants rapprochés?
C'était pas du tout planifié. Nous, on pensait qu'on était infertile, là, dans le fond,
OK, je
qu'on allait
comprends.
avoir besoin d'aller vers encore
Encore une fois,
l'insémination
OK,
si on
je
en
comprends.
voulait. Puis comme j'avais eu un accouchement. Pardon?
Est-ce que tu allaitais?
J'allaitais aussi.
OK.
Ouais.
OK.
Puis il y a comme une croyance, mais qui a quand même été démentie par la science là, par rapport à l'allaitement puis la fertilité. Là, c'est, on peut quand même très bien tomber enceinte en
Oui,
allaitant.
c'est ça. Oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça. Fait que non, c'était vraiment pas prévu. J'aime dire que ma June, était inespérée, mais attendue. Ouais. Fait que ça a été vraiment une grosse, grosse surprise. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais tu sais, ça a vraiment été une surprise, là. On n'en revenait pas, puis avec l'accouchement que j'avais vécu, là, ça a comme l'anxiété. Je me disais, c'est impossible,
Ouais, tu peux pas revivre ça, là.
je peux
Ouais.
pas revivre ça, là. J'étais dans tous mes états. Je suis retournée au début quand je suis tombée enceinte, là, je suis retournée où est-ce que j'étais suivie, puis. Les gens me disaient, ben voyons, j'ai jamais entendu ça, que tu as vécu ça, ça se peut pas. T'sais. C'est comme ça avait été un peu discrédité
Ouais, c'est
l'expérience que
ça.
j'avais vécue. Puis en même temps, c'était pas ma médecin, c'est pas la médecin qui m'avait suivie, qui m'avait dit que ça se pouvait pas. C'était vraiment d'autres gens des équipes médicaux. Puis après ça, tu te rends compte que veux pas, s'ils veulent pas non plus dire trop de choses parce que tu sais, c'est des sujets matière à poursuite, là. Fait
Ouais, ouais.
que ça a été vraiment difficile avec très peu d'empathie de la part des corps médicaux à ce moment-là. Moi, j'étais comme ben là, je peux pas aller en césarienne, là. Moi, je vais mourir si je vais en césarienne, tu sais, ça marchera pas, là. Fait que finalement, j'ai fait le suivi à Sainte-Justine où on a des spions, là, juste aussi en parenthèse, comme les enfants avaient 14 mois de différence. À l'hôpital initial à laquelle j'ai accouché, on me disait, c'est sûr que tu vas en césarienne. Tu n'as même pas d'option. Tu t'en vas en césarienne. Ils n'ont pas 2 ans de différence. Les risques de fissures utérines
C'est
sont très
vrai,
grands.
oui, parce que c'est une bonne chose de dire
On
qu'on veut tenter
rapprochait.
un accouchement vaginal après un accouchement par césarienne. Il faut attendre, je pense que c'est 18 mois entre les deux, ça se peut-tu?
Je pense qu'ils vont recommander un 2 ans,
Deux
mais
ans.
faudrait que je retourne
Oui,
voir, là, je suis
mais
vraiment
quand
plus
même, c'est ça,
certaine.
il y a vraiment un délai là, pour vraiment que ton utérus et tout ça, tout soit bien. C'est cicatrisé et tout ça là, que avant de pouvoir penser à avoir un accouchement vaginal, je pense, là.
C'est ça. Mais encore là, ça demeure la décision de la maman.
Ouais.
Et moi, dans le fond, j'avais pas senti que j'avais cette possibilité-là. Tu sais,
OK.
quand je suis tombée enceinte, là, on m'a dit, c'est sûr que tu t'en retournes en césarienne. C'était même pas négociable. Puis quand j'ai appelé à Sainte-Justine, la première fois que j'ai rencontré ma médecin, elle m'a dit, tu veux tenter un AVAC? Pas de problème. On
OK.
va faire, on va y aller avec un AVAC. Je te suis là-dedans, genre, you're the boss. Faut que tu
Ouais.
saches qu'il y a des risques. Fait que si tu pètes de travail, on va aller en césarienne. On ne va pas te laisser être en souffrance trop longtemps. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est sûr que tu t'en vas en césarienne. Mais on va te laisser l'essayer. Tu es une bonne candidate, tu es jeune, tu es en forme, peu
OK.
importe. Puis le bébé était bien placé, c'était tourné, c'était un petit bébé. J'avais toutes les bonnes conditions pour tenter un AVAC.
Comment qu'on se prépare aussi à un AVAC? C'est quoi qu'il faut respecter ou...
Ben, dans le fond, c'est ça. C'est. La décision ne peut pas être prise dès le départ. Il faut quand
OK.
même vivre pendant jusqu'à la fin de ta grossesse avec la possibilité que ce soit un ou que ce soit l'autre sans avoir la certitude. Parce que
OK.
c'est ça, il faut que ton bébé se soit retourné, il faut que le poids soit un petit bébé, je pense que John faisait comme 6,5 livres là, en fin de grossesse, 7 livres, puis était comme si c'est un bébé parfait pour tenter un AVAC. Il ne faut pas que ça soit un trop gros bébé. Là, il était comme on ne dépasse pas la date non plus. Si tu te rends 41 semaines, tu oublies ça, c'est une césarienne, on va pas tenter l'AVAC. Fait qu'il y avait plusieurs choses à circonscrire. Mais j'avais toutes les conditions, puis j'avais fait mon accompagnement avec une doula aussi tout le long
OK.
de ma grossesse à June, qui m'a vraiment beaucoup aidée, dans le fond, à avoir quelqu'un pour décharger toutes mes anxiétés, puis tu sais, relativiser. Puis j'avais besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui allait stand for me, genre, pour qui allait garder en tête ce que je voulais vraiment dans mon accouchement, puis se battre pour moi s'il y avait ouais. quelqu'un qui venait le négocier, tu sais.
Quelqu'un de neutre, parce qu'on s'entend que, tu sais, ton copain aurait potentiellement pu faire ça, mais en même temps, du moment où il devrait souffrir, ça se peut qu'il fasse comme « OK, non! »
Non, exactement. Vous voulez.
Ouais.
Pour moi, c'est important que mon chum puis moi, pendant l'accouchement, on ait notre bulle à nous deux, tu sais, ensemble. Puis ça a vraiment été ça, l'accouchement de June. Tout le long de mon travail, ça a été vraiment ça a été un super de beau moment. Il y avait Julie qui était là aussi comme accompagnante, qui a été une pelle puis qui m'a beaucoup aidée. Mais c'est ça, le but c'était que moi puis mon chum, qu'on vive ça ensemble, puis que Julie soit là pour m'aider, me rappeler les techniques pour mieux gérer la douleur, mais c'était aussi pour repousser certaines décisions. T'sais, c'était vraiment pour m'aider dans tout ce processus-là pour que j'aille à me poser le moins de questions possible.
Ouais.
À la fin, c'est le même scénario un peu qui s'est passé. Ça faisait quelques heures là, que j'étais en travail assez intense, puis à un moment donné, le travail a arrêté de progresser comme d'un coup. C'est resté stagné là. Puis l'équipe venait souvent voir, puis elle disait, tu sais, à un moment, on ne peut pas te laisser non plus là, être à ce stade-là. Le cœur décélérait, il faut qu'on fasse quelque chose. Fait que, tu sais, commence à avoir en tête qu'on va s'en aller en césarienne. Mais ça s'est fait très doucement, dans le respect. Avant de rentrer en salle d'opération, l'équipe médicale s'est fait un meeting d'équipe, une rencontre pour revoir mon dossier médical, passer à travers ce qui m'était déjà arrivé. Fait que, au niveau juste de l'anesthésie, les gens ils ont vraiment fait en sorte que tout se passe bien. Ils m'ont mis de la petite musique. Le chirurgien sur place a été vraiment un amour. Là. Il me disait mot à mot ce qui se passait. Tu sais, OK, là, je fais la première incision. Voici qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens pour qui ça aurait pu ne pas fonctionner, qui ne veulent pas savoir puis qui n'aiment mieux pas. Mais moi, j'avais besoin d'être sécurisée que tout se passait bien. Tu sais, qu'il n'y avait pas de catastrophe qui est en train de se passer. Puis, je suis quelqu'un qui est quand même.
T'aimes-tu avoir le contrôle?
Ben, j'aime avoir le contrôle, mais j'aime comprendre les choses. Okay. J'aime ça comprendre, puis je veux savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. À mon premier accouchement aussi, dans la césarienne, on m'a mis, par exemple, le masque à gaz que j'aurais jamais voulu avoir, t'sais. Mais j'ai pas eu de décision à prendre. On n'a pas demandé l'opinion de personne. Fait que là, je voulais justement... T'sais, à moins que ce soit un scénario catastrophe et que je ne sois pas capable de parler ou rien, je voulais être impliquée dans ma césarienne. Je voulais qu'on soit au courant. Fait que ça a été une super belle expérience. Le personnel a été super, super gentil, attentionné, empathique. Fait qu'au final, ça s'est très bien passé, même si c'était une autre césarienne.
Ouais,
là, c'est super. Vas-y, oui.
Ben, tant mieux de le dire aussi, t'sais, parce que je me souviens aussi, quand moi j'ai eu ma césarienne, l'expérience à laquelle je pensais, c'était celle d'une maman avec qui je m'étais entretenue justement dans le podcast, qui elle avait adoré son expérience de césarienne. Donc, quand moi on m'a dit « ça va être une césarienne », je suis comme « OK ». Tu sais, j'étais super ouverte. Non, je n'étais pas préparée à 100% de vraiment chaque étape, comment ça va se passer. Mais assez confiante de me dire, ben, regarde, si ça s'est super bien passé pour elle, ça se peut que ça se passe super bien pour moi aussi, puis que j'aime ça. Donc, tu sais, je trouve ça bien qu'on le dise aussi que ça peut bien se passer, là, la césarienne. Tu sais, c'est pas nécessairement une expérience traumatisante. Ça peut arriver, mais comme n'importe quoi, je veux dire, accoucher par voie vaginale aussi, là, des fois, c'est une expérience traumatisante, tu sais. Donc, j'aime ça qu'on puisse faire.
Mais je pense que ce qui est important qui soit mis un peu à la vue de tous, c'est qu'il y a autant de scénarios d'accouchement que de personnes.
Ouais.
Il y en a des super beaux, des rêvés, puis il y en a d'autres qui sont traumatiques, mais sont tous valables.
Il existe tous, finalement.
Puis c'est important que les gens puissent se retrouver aussi.
Ouais.
Moi, quand les médecins m'ont dit, après mon premier accouchement, que ce que j'avais vécu, ils n'avaient jamais entendu ça de leur vie avec une petite pointe de « t'es-tu sûre que de ce que tu racontes? » Ben, quand je suis allée en ligne après ça, puis que j'ai vu qu'il y en avait des centaines de récits comme le mien, je me suis dit, ben là, peut-être que dans votre expérience d'homme gynécologue, vous n'avez pas vu beaucoup de femmes en souffrance, mais quand je regarde les récits sur Internet, il y en a plusieurs à qui c'est arrivé, tu sais.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en discute puis pour que les gens puissent se retrouver aussi. J'ai eu 3 accouchements, les 3 par césarienne. Je n'ai pas eu une césarienne qui était la même, avec le même vécu. C'est sûr que celle que j'en garde le meilleur souvenir, c'est la dernière qui était planifiée. Mais à June, ça s'est quand même très, très bien passé.
Puis qu'est-ce qui a fait que pour... le 3e accouchement, tu voulais le planifier, que tu ne voulais pas réessayer un AVAC?
En fait, ça, encore une fois, j'ai eu le choix d'aller même jusqu'à quelques jours avant d'accoucher. Mon dernier suivi médical, le travail avait commencé un petit peu, j'avais des contractions par-ci par-là, j'étais dilatée. Puis ma médecin me dit, j'avais fait une échographie aussi de croissance, puis ma médecin disait, tu sais quoi, tu es encore une excellente candidate à l'AVAC. Est-ce que tu as envie d'essayer l'AVAC? Et j'étais vraiment pas certaine. J'ai appelé la veille pour confirmer que j'allais en césarienne. J'ai appelé l'hôpital, ma médecin était de garde cette journée-là, puis j'ai appelé pour dire, pouvez-vous juste dire à Docteur Sans Regret que c'est bon, je vais être là demain matin, genre, count me in. On va faire la césarienne. J'avais eu mon appel téléphonique avec l'équipe qui allait faire la chirurgie, dans le fond, là, avec l'anesthésiste, entre autres. Puis, il m'avait un peu expliqué, tu sais, si je vais avec la VAC, ça va être quoi la différence avec la césarienne planifiée. En gros, là, l'anesthésiant, c'est pas la même chose. Là. C'est une rachis quand on est en césarienne planifiée. Sinon, ben, c'est avec l'épidurale, et m'expliquait la façon que j'allais être gelée et tout ça. Puis je me suis dit, tu sais, ça me tente pas. J'étais encore extrêmement anxieuse d'aller en césarienne, puis je l'ai été là, jusqu'à ce que j'aie le bébé dans les bras. Mais cette fois-ci, j'ai un peu plus de contrôle sur la façon dont ça peut se passer. Puis j'ai besoin d'avoir ce pouvoir-là en ce moment sur la naissance de mon dernier enfant parce que j'ai besoin d'un narratif positif, puis qu'il soit beau, puis que ce soit une belle histoire de naissance. Puis j'étais capable de mieux me préparer, dans le fond. Fait que c'est comme j'avais parlé tantôt. J'étais arrivée, j'avais ma couverture, j'avais la musique. Je connaissais déjà les gens qui allaient être dans la salle. J'ai été accompagnée d'une façon qui était vraiment merveilleuse. J'ai eu mes écouteurs avec de la méditation avant de rentrer en chirurgie. J'ai fait de la méditation, j'ai fait de la méditation guidée, j'ai fait des exercices de respiration. T'sais, je me suis vraiment créé un environnement comme pour me préparer. J'avais demandé un calmant une fois en salle d'opération. Ça a été complètement différent comme expérience. Il y avait comme j'avais aussi commencé mes contractions, fait que je vivais encore tout ça dans mon corps. Puis ce qui est drôle, c'est que j'aurais accouché cette journée-là, peu importe ce qui se passait. Là, le bébé sont allés le chercher avec des forceps, finalement, tellement il était descendu quand ils ont fait la procédure. Fait que tu sais, j'avais des contractions déjà depuis plusieurs heures. Fait qu'on dirait que ça aussi, ça m'a comme amené de sentir qu'il y avait comme mon corps travaillait avec bébé déjà. C'est qu'on s'en allait à la même place. Là. Ça a été fort, ça aussi. Fait coin, puis tu sais, quand je suis rentrée en salle d'opération, tu rentres toute seule, ton partenaire est toujours à l'extérieur, puis il rentre une fois que l'anesthésiant est fait, puis souvent que tu es déjà couché sur la table. Moi, quand je suis rentrée, j'ai comme explosé en larmes, puis ils ont tellement été soutenant puis bienveillant. Le personnel médical, on t'entend de pandémie, là, me faisait des câlins, puis était genre, ça va bien se passer. Puis ils ont fait rentrer mon chum plus tôt, finalement, pour m'accompagner vraiment, puis être là pour me sécuriser au début de la procédure. Fait que ça a vraiment été là. Puis l'anesthésiste qui était sur place, l'anesthésiste résident, de mémoire, là, c'était Caron, son nom, puis je le spécifie parce que c'est un des plus belles humains que j'ai rencontrés de toute ma vie. Il y a toute la journée, tu sais, prenait le temps de venir me voir. C'est l'anesthésiste, là, c'était pas mon médecin gynécologue qui faisait la chirurgie, mais venait me voir, comment tu vas, comment tu te sens, on prend bien soin de toi, on a passé la première personne, tu es bientôt là. Puis tout le long, tu sais, il me parlait dans mon oreille, bon, voici ce qui se passe, hey, ça va super bien. Puis ça, tout ça, les gens autour, ça fait vraiment une différence.
Oui.
Tu sais, on le sait comment c'est difficile dans le milieu de la santé, puis comment sont mises à dure épreuve, entre autres pendant la pandémie. Mm-hmm. Mais Colin, tu sais, l'humanité, là, c'est tellement important. Puis malgré tout ce qui se passe, là, ils ont été des perles, puis ça a eu un impact vraiment magique sur mon récit d'accouchement, finalement, parce que c'est ça qui me reste le plus. T'sais. C'est comme l'amour puis l'empathie que j'ai ressenti par toute l'équipe, ça l'a changé complètement mon expérience. Fait que, tu sais, quand tu disais, faut pas que vous ayez peur de changer de médecin, je pense que ça serait ça mon... Entourez-vous le plus possible, d'une équipe médicale, tu sais, tu vas choisir ton médecin, puis c'est pas mal le seul, puis ça se peut que ça soit de garde, puis ça soit pas lui qui t'accouche,
c'est mais ça,
que ton suivi soit positif, puis les gens autour de toi, tu sais, on dirait qu'avec tout ça, ce que je me dis, c'est que c'est tellement important d'avoir des bonnes personnes autour de soi dans la vie, là, la maternité, ça l'amène beaucoup, ça, je trouve, là, la remise
tellement.
En question, puis de, tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense que mon conseil pour les parents, c'est entourez-vous bien. La doula, là, c'est un cadeau du ciel que vous allez vous faire.
Ouais.
C'est vraiment, c'est du doux que vous allez vous offrir. C'est une liberté, une paix d'esprit que vous allez vous offrir. Fait que je trouve que ça aussi, c'est pas accessible à tout le monde. Fait que, je trouve ça plate. Puis j'espère qu'un jour, on va avoir des subventions. Pour nous permettre d'avoir des doulas avec nous. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez la chance de vous entourer, pour moi, ça a été très significatif aussi dans mon deuxième accouchement d'avoir Julie avec moi.
Oui. Elle n'était pas là au troisième?
Non, bien là, dans le fond, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas, mais aussi...
Ben, vu que c'est
dans les circonstances de la césarienne, j'avais envie de vivre ça tout seul avec mon chum, puis de réécrire pour nous aussi, pour notre histoire. Tu sais,
Puis le troisième, justement, est-ce que lui aussi, c'était un peu une surprise ou...
Non, pas du tout.
Non, OK.
On a décidé d'y aller pour un troisième, puis... C'est ça. La vie, c'est tellement drôle. Ça a fonctionné. Je pense qu'on se disait, on veut-tu un troisième enfant? Oui, deux semaines plus tard, j'étais enceinte. Là.
Ah ouais, hein? C'est impressionnant quand même. J'ai attendu
3 ans pour le premier puis avoir été en fertilité. Fait. C'est tellement ironique. C'est ironique. Puis en même temps, c'est magique. Fait que on dirait que ça m'amène le petit côté magique de la vie. T'sais.
Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Est-ce que le fait que, je ne sais pas moi, vu que tu étais déjà tombée enceinte et tout ça, est-ce que ça fait comme un peu... Tu sais, ça prépare déjà le corps à je ne sais trop. T'sais. J'essaie de m'expliquer qu'est-ce qui ferait que, mettons, au départ, il y avait de l'infertilité puis que finalement, tu tombes enceinte en dedans de 2 semaines, tu sais. C'est spécial?
Je ne saurais pas l'expliquer à 100%. Je sais que les hormones ont quand même un rôle parce que il y a comme un rebalancement qui vient jouer à ce niveau-là. On m'a déjà dit que le corps avait une mémoire. En même temps, l'infertilité après un premier enfant, c'est aussi une réalité.
Ouais.
Fait que, qu'est-ce qu'il explique? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il explique. En tout cas, ce que j'ai envie que les gens entendent aussi là, dans tout ça, c'est de, tu sais, quand les gens autour de vous vivent de l'infertilité ou ils ne tombent pas enceintes, ou tu sais, soit d'avoir un enfant, puis là, il faut dire lâchez prise. Tu sais, ça, c'est ultra culpabilisant comme discours. Fait que finalement, je ne tombe pas enceinte parce que je ne suis pas capable
de lâcher prise. Autre chose,
Il y a personne qui disait à mon chum de lâcher prise. Là, c'est arrêter d'y penser puis être juste dans le moment. Ouais, mais tu sais, quand ça fait 3 ans que tu essaies d'avoir un enfant, le moment là, que vous avez une relation sexuelle, là, c'est très difficile de ne pas y penser. Puis quand tu me dis de ne pas y penser, ben, c'est extrêmement culpabilisant aussi.
Ouais.
Je veux dire, à un moment donné, les gens ont besoin juste d'être, les gens ont juste besoin d'avoir le support des gens puis de faire comme, hey, you know what, peu importe qu'est-ce qui se passe, je suis là pour toi, tu as besoin d'en parler, je suis là pour toi, tu sais, tu peux me dire n'importe quoi, peu importe, je vais juste t'écouter, tu sais, ça va juste te faire du bien. Ça devrait être juste ça que les gens disent, ou tu sais, as-tu envie de m'en parler, tu sais, puis de continuer de poser ces questions-là, mais d'essayer d'enlever les phrases toutes faites qu'on se fait dire maintes et maintes fois. Ah, tu vois, quand t'as arrêté, parce que moi, je me suis fait dire ça là, à June puis à Marley. Là. Ah, ah, vous là. Voyez, quand vous avez lâché prise, là, vous êtes tombée enceinte de même. Ben oui, mais tu sais, je pense pas que c'est une question de lâcher prise parce que j'ai genre deux enfants, j'ai une entreprise, puis en ce moment, je te dirais que tu sais, mon ventre est quand même plein. Là, fait que.
T'es bonne. J'aime ça t'écouter parler. Vraiment. Et là, je vois le temps qui file, puis je suis comme, mon Dieu, attends, j'ai tout plein de questions encore à te poser. Je suis genre, oh my God,
ben, ça fait une heure qu'on se parle.
Ouais,
ben, j'ai encore le temps. Je ne veux pas.
Tu sais, mettons un 15 minutes encore, juste pour dire qu'on.
Tout à fait.
Oui, t'es correct.
Oui, ouais, je suis correct.
Tout ça. OK.
Yes.
Parfait. Je vais regarder ici. Ben, abordons justement la charge mentale d'avoir trois enfants. Une entreprise, ton conjoint qui est aussi entrepreneur, ça a l'air de quoi tout ça?
Oh, ça a l'air de quoi? C'est drôle parce que, tu sais, dans ma tête, c'est tout le temps un peu, ça, c'est la cacophonie des caouettes, la voix, là, tu sais, c'est comme, on dirait qu'il n'y a jamais de moment de silence, il n'y a jamais de temps de pause. Encore hier, tu sais, je disais à mon chum, aïe, aïe, là, je ne peux pas avoir deux minutes où je ne suis pas sollicitée. T'sais. Je suis constamment sollicitée quand ce n'est pas les enfants, c'est le travail, c'est le chien. Il y a toujours quelque chose.
Ouais.
La charge mentale, c'est tough parce que c'est comme c'est des pensées qui sont invisibles puis qui viennent en rumination puis qui sont comme tout le temps là. Puis ce qu'on dit c'est comme solution en psychologie, c'est ouais, ben, la charge mentale, la solution, c'est la répartition des tâches. Tu sais. Il faut que les tâches soient bien réparties, mais il y a quelque chose qui est plus insidieux et qui est encore plus difficile que ça parce que c'est pas juste la répartition des tâches, c'est l'administration des tâches.
Oui, tout à fait. Toute la gestion qui vient avant ça.
Avant l'exécution des tâches, ouais, c'est ça qui est comme, c'est ça qui est drainant puis qui prend de l'espace. Puis de l'expliquer, c'est difficile des fois parce que t'es comme, mais tu sais, moi là, dans mon couple, puis là, ça aussi c'est un autre sujet. Genre, je me fais souvent dire, ouais, mais toi, t'es chanceuse, ton chum, tu sais, il est full impliqué. Non, je ne suis pas chanceuse. Mon chum n'est pas impliqué. Mon chum
est un parent, là, tu sais.
Un parent est un parent dans une maison qui demande un entretien.
Exactement.
Avec des enfants qui ont des besoins. Et mon chum fait sa job.
Ouais.
Puis, je l'adore, je l'ai dit, c'est la première chose que j'ai dit ici. Je trouve incroyable. Je trouve vraiment que tu sais, il est un père modèle, là, pour vrai.
Mais il se responsabilise. Cet enfant-là, il a été fait à deux. Je veux dire, je comprends tellement ce que tu dis. Moi aussi, ça me gosse quand on dit ça. Je suis comme, OK, mais il fait juste sa job, finalement.
je suis chanceuse,
qu'il fasse sa job. Tu sais, je veux dire.
Hey, mon chum, il part à quelque part avec les enfants, là, il se fait arrêter. Il va à l'épicerie, là, puis là, les petites madames, ça l'arrête, là, puis « Oh, mon Dieu, vous êtes courageux, puis ah, tu sais, c'est beau de vous voir aller. » Puis je suis comme « C'est cool de te voir, tu sais, que les gens fassent ça. » Mais tu sais, qui me dit que je fais une bonne job dans la vie, ou qui est comme « Hey, tu sais, je les ai portés, je les ai accouchés, j'ai eu des accouchements, un accouchement trop traumatique. » Puis Colin, c'est mon chum qui ramasse toute la bucket de... Enfin, bref, un autre sujet, mais...
Mais c'est vrai, ouais.
Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, je comprends là, que c'est vraiment pas la réalité de tout le monde. Puis que... Mais pour moi, dans ma vie en ce moment, c'est juste normal là, qu'on se répartisse les choses.
Ouais.
Mais l'administration des tâches repose quand même souvent sur mes épaules.
Ou
du moins, j'ai l'impression qu'elle repose sur mes épaules parce que c'est des fois aussi des choses que mon chum est comme, ouais, mais... On s'en fout, puis ça peut attendre. Puis il a probablement raison aussi. Fait que souvent, c'est de dire, ben OK, là, mais là, t'as-tu pensé parce que c'est toi qui es supposé d'acheter des bas pour le bébé parce que les bas, ils font plus, tu vas-tu le faire?
Ouais.
Puis comme, ben je l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Il va exécuter la tâche, il va le faire, mais j'ai quand même eu l'impression d'avoir besoin de le rappeler, puis c'est ça qui est drainant un peu. Puis ce qui devient un peu vicieux, c'est ces ruminations-là. Puis là, moi, j'ai la partie du travail aussi où j'ai une équipe qui est extrêmement compétente. Là, genre, les filles, je ne peux pas imaginer comme c'est mon team de rêve. Mais en arrière, il y a quand même plusieurs décisions que je dois prendre. Mm-hmm. Puis une gestion des liquidités, puis tu sais, des sous en arrière d'une entreprise, bien, ça, c'est aussi moi qui ai ça en arrière. Fait que tu sais, toutes les décisions
doivent que passer par toi.
Par moi, puis en termes monétaires, c'est toujours dans ma tête. Fait que, tu sais, OK, on va faire ça, on va faire ça. Moi, ce que je vois, c'est OK, c'est-tu réaliste, on va-tu y arriver, ça va-tu marcher? Tu sais, fait qu'il y a tout le temps, il y a comme une double rumination dans ma tête là, par rapport à tout ce qui doit être fait dans la maison, puis qu'est-ce qui doit être organisé, puis tout ce qui doit être fait, puis organisé aussi au niveau de la business. Puis je sais pas trop dans le fond, c'est quoi la question initiale? Est-ce que c'est comme ça a l'air de quoi?
Oui, ta charge mentale et tout ça, comment que tu la gères, comment que... Tu sais, je sais qu'on dit souvent, comme tu dis, de répartir les tâches, puis de se faire des listes. Puis tu sais, moi aussi, mon chum, tu sais, il doit faire sa propre liste. Tu sais, je peux pas faire une liste pour lui, ça marche pas. Il faut que ça soit sa liste à lui. Mais en même temps, l'autre jour, je suis comme, où ta liste? Il sait plus où sa liste. Fait que c'est comme, c'est encore une fois que je suis genre...
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mon chum m'a sûrement écouté le podcast après, puis là, il va comme... Mais c'est exactement ça.
Oui, oui. Mais tu sais, je pense qu'aussi, ma mère, c'est ce qu'elle a toujours dit, on est plus prévoyante, on le sait, mettons, qu'il va manquer de lait dans deux jours, fait qu'on va aller acheter du lait aujourd'hui. Tu sais, c'est un exemple un peu banal, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est comment que des garçons, en général, sont peut-être éduqués, tu sais.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Il y a beaucoup, beaucoup... On arrive à ça qui est de la socialisation genrée des enfants. T'sais.
Exactement, tu sais.
Il y a tellement de choses qui passent par là.
Oui.
Puis juste comment on a regardé. Moi, je viens d'un milieu qui est extrêmement traditionnel, là, des rôles très genrés au niveau de la maison, puis tout ça. Puis moi, j'ai voulu m'en émanciper très, 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 très jeune, mais veux pas. J'ai quand même, c'est ça, tout ce qui est de l'organisation, de la planification, ça, j'ai quand même grandi avec ça, puis j'en ai, tu sais,
Ouais, je comprends, moi aussi. T'sais, même que tout ce qui est dans les façons d'éduquer ton enfant, tu sais, j'étais entourée de gens que c'est très, les vieilles manières de penser, tu sais, très, comment je pourrais dire ça, autoritaire, tu sais, ces choses-là, alors que, tu sais, j'y ai goûté un petit peu à ça, avec mon propre bébé, puis je suis comme, ça me parle pas pantoute. C'est rapidement, là, j'ai fait, non, il n'y a aucune chance, mettons, que je le laisse pleurer. Ça a été clair pour moi à un moment donné, puis tout de suite, j'ai changé ma façon d'éduquer mon enfant, d'être une maman, puis que j'ai connecté vraiment avec ma sensibilité parentale à travers tout ça. Mais c'est ça, tu sais, ça, c'est un exemple parmi d'autres que... Ouais, des fois, j'ai l'impression que je dois un peu, pas justifier mes choix, je dis les expliquer parce que c'est nouveau quand même, tout ce qui est de la parentalité bienveillante, positive, consciente. Mais je pense qu'on a besoin de faire tout ça, de la parentalité ouverte sur le genre. Tu sais, il faut que les choses changent, veux pas, puis il faut que ça parte en quelque part. Donc, je me dis, ben, je vais aider à ça, tu sais, même si... c'est encore aujourd'hui, oui, on voit qu'il y a du chemin qui se fait, là, mais tu sais, c'est encore très traditionnel. Là. Donc,
vraiment. Mais ça, pour dire aussi que dans le fond, je n'ai pas la solution à la charge mentale, puis je
mais tu as quand même décidé d'avoir trois enfants, là, même si tu avais une grosse charge mentale.
Oui, puis tu sais, c'est un choix. Je ne subis pas du tout ma parentalité. Là. Ça, c'est important quand même de le dire parce que moi, ça m'apporte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là, d'être maman de trois.
Mais c'est ça comment... Moi, mettons, en ce moment, tu sais, on y pense, on en parle. Des jours, c'est comme OK, oui. Des jours, c'est non. Tu sais, c'est ça, par moment, c'est tellement challengeant. Avoir un enfant, surtout là, à l'âge qui est là, avec il essaie de gérer ses émotions, les crises de colère, tout ce qui est phase de différenciation. Puis, je me dis, Wow, OK. Si j'en avais un deuxième à m'occuper en ce moment, justement, je serais stimulée tout le temps. J'aurais même pas une minute pour moi, comme ce que tu as dit tantôt. Puis je sais pas si je suis prête à ça, tu sais. Toi, qu'est-ce qui a été le déclic de dire, ben, c'est correct, ça va être ça, c'est un coup à donner. Tu sais, c'est quoi que tu t'es dit?
Mais il faut que je me le rappelle, là, tu sais, que c'est un coup à donner parce que encore hier après-midi, tu sais, je dis à mon chum, aïe, vraiment, je suis comme sollicitée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, à un moment donné, ah ouais, il faut que tu prennes soin de toi. Mais tu sais, c'est beau, là, mais genre, c'est pas parce que je me mets de la crème puis que je prends un bain que, genre, j'ai pris soin de moi, là. C'est pas ça qui. Mais c'est souvent ça qu'on on véhicule, là. Tu sais, prends soin de toi, puis c'est, tu sais, à travers une demi-heure, la porte fermée dans la salle de bain. C'est pas efficace, là. Ça m'ordonne un petit temps de pause, mais.
Ouais. En même temps, c'est ça dans la parentalité, c'est sûr que ça prend plus que ça, mais il faut quand même les prendre, je pense, ces moments-là.
Je pense, oui, il faut les prendre, mais c'est un, faut que je me rappelle, Nen, c'est un coup à donner. Là, c'est temporaire. Cette situation-là ne va pas être une ligne jusqu'à 18 ans. Là. Ça va toujours être en fluctuation. Puis je le sais aussi parce que avant d'avoir Marley, les enfants... Ils ont 14 mois de différence, là, fait que ils sont quasiment au même stade dans tout, ils jouent aux mêmes choses. Fait que avant d'accoucher de Marley, j'étais comme, oh mon Dieu, ils jouent ensemble tout seuls. On avait des moments plus calmes, des moments de répit que moi, mon chum, on se regardait, on était comme, hey, salut, ça va? Good morning! Fait que des fois, je me rappelle ça, puis je suis comme, OK. On est vraiment en train de donner un coup. Puis Marley a déjà 6 mois, puis c'est passé en coup de vent. Ça a été tough, mais ça a été extraordinaire en même temps. Tu sais, des fois, je nous regarde, puis je suis comme, oh my God, on a 3 enfants, man. On a 3 enfants, on a 3 business, puis on y arrive. On y arrive bien. Tu sais, ben non, on passe pas nos soirs au bar. On a très peu d'activités sociales à l'extérieur de la famille puis du travail en ce moment, mais c'est un coup à donner. Puis c'est ce qu'on se rappelle un peu comme un mantra, c'est temporaire, puis on va passer à travers, puis c'est d'aller se ressourcer dans des moments où on a l'impression d'avoir gagné, tu sais, genre, tout le monde dort à 7 heures, puis on est comme, oh yes!
Ouais, comment qu'on gère le dodo de 3 bébés?
On gère une journée à la fois.
Ouais, il n'y a aucune
journée. On gère une journée à la fois. Pour le moment, oui, puis... encore là, on a tous des façons différentes là, de voir le sommeil des enfants. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose que je voulais... à 3 mois, le go, là, l'apprentissage. Pour moi, je ne suis pas là. Il y a aussi le fait que c'est mon 3e enfant. Puis je suis comme, tu sais, il ne se réveillera plus la nuit à un moment donné, puis il n'y en aura plus d'autres qui vont se réveiller la nuit. Fait que... Honnêtement, des fois, j'aurais besoin d'un break, puis je veux aller à l'hôtel pendant 48 heures, puis qu'il n'y a personne qui me parle.
Ouais.
Mais d'autres fois aussi, la nuit, que je suis vraiment dans un stade genre de gratitude, vraiment, là, que je suis comme, je le nourris, puis je suis c'est peut-être la dernière fois, puis j'en profite, puis je me dis, c'est un moment qui est privilégié en ce moment. Fait que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de s'ancrer dans le moment présent, puis dans les petits moments de bonheur, puis de joie. Je me rappelle cette semaine, je te donne des anecdotes, mais
pour le représenter,
tu sais. Je suis en train de faire à souper, mon chum est allé chercher les 2 grands à la garderie, tu sais, je prenais un verre de vin, le petit était dans sa chaise haute, je faisais à manger, j'écoutais ma musique, puis j'étais comme... Pour moi, ça, en ce moment, c'est du bonheur. Je me sens bien dans mon corps, j'ai pas la tête à ruminer 350 affaires. Genre, c'est un moment qui est pour moi, même si j'ai mon bébé avec moi, même si les enfants vont arriver dans à peu près 20 minutes, puis ça va être la cacophonie des caouettes la voix. Mais pour moi, tu sais, j'étais d'être capable de reconnaître, OK, ça, là, en ce moment, c'est un vrai moment de bonheur où, tu sais, je le sens dans mon corps que je me sens heureuse. Puis de garder ça après ça un peu en se disant, ben là, j'ai une mauvaise journée. Mais c'est une phase. Je vais ressentir ça encore à nouveau dans un futur très proche. Mon chum m'a proposé aussi d'essayer de scinder les journées en... Plutôt que d'y aller, genre, j'ai une journée de merde, par exemple, d'y aller plus en... J'avais mon avant-midi, j'avais mon après-midi, j'ai ma soirée. Fait que, tu sais, d'y aller encore, OK, ce matin, ça s'est bien passé, puis tu sais, d'essayer de changer le thinking un peu, puis de scinder les journées, soit en petite période ou en activité. Genre, cette activité-là s'est bien déroulée, cette activité-là, puis là, je dis activité, mais ça peut être, j'ai fait ma comptabilité, tu sais, ou j'ai, tu sais, le dodo, justement. Fait que de faire comme, OK, ça s'est super bien passé, puis d'arrêter de comme généraliser quand ça va pas bien, à comme, oh mon Dieu, tout va mal, tu sais.
Ouais. Non, c'est une bonne chose, ça, j'aime bien.
Oui, fait que j'ai comme commencé à essayer d'intégrer ça tranquillement, là, puis
je trouve que c'est pas parce que ta journée commence moins bien que toute ta journée sera pas bonne, tu sais.
Ouais. Tu sais, des fois, elle finit mal au travail, ou tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis là, ça teinte tout le reste. Ah, là, mais non, d'y aller vraiment, de scinder les parties, puis c'est plus facile de relativiser de cette façon-là, puis de retirer qu'est-ce qui est positif, dans le fond, dans le reste de la journée. Fait que ça m'a quand même aidé.
Oui.
Mais comment on fait à 3 enfants, puis...
Mais la garderie, ça l'aide aussi, j'imagine.
Ça aide quand on peut y aller, là.
Ah ouais, j'avoue. C'est tellement quelque chose. Avec la pandémie, puis le fait que tout le monde est malade, tous les enfants sont malades, en ce moment, moi, je suis comme, au moins, j'ai pas ça à gérer, là, la garderie. Mm-hmm. J'ai mon fils avec moi, là. Mm-hmm. Mais ouais, j'avoue
que... Ça, c'est super intense, là, parce que... On dirait que, puis tu sais, ils sont tout le temps un petit peu malades, là. Il y a toujours de quoi. Fait que, en même temps, c'est l'autre côté de la médaille. On est super chanceux pour ça parce qu'on se revire super facilement. Là. Tu sais, hier, on a gardé tout le monde à la maison parce que les enfants avaient une grosse fin de semaine de fête pour mon gars. Puis, tu sais, on avait comme exagéré dans les activités. On avait skippé les siestes. Puis tout ça. Fait que là, lundi, quand ils se sont levés, on était comme, ouch, les grosses cernes en dessous des yeux.
Ah ouais.
Hein? Savez-vous qu'aujourd'hui, on prend une journée de repos à la maison? Okay. Ça a été intense. Ça a été intense pour moi parce que si j'étais comme j'ai pas le temps de rien faire.
Ouais.
Mais en même temps, après ça, j'étais comme tu sais, on est chanceux de faire ça, là, de prendre la décision de les garder.
Ouais.
Puis ben là, mon chum a travaillé un peu l'après-midi, j'ai travaillé un peu pendant les siestes, j'ai travaillé un peu hier soir. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait aussi qu'on travaille peut-être un peu partout, puis tu sais, on n'a pas l'horaire tout le temps. Oui, pour vrai, oui.
Ouais.
Mais ça vient avec d'autres avantages qui sont
intéressants. C'est ça, exactement. Il faut toujours qu'il y ait aussi the good takes over the bad, comme on dit, là.
Ouais.
Donc, avec qu'il y ait plus de bons côtés, c'est sûr qu'il y a de moins bons côtés, là. Mais y a-t-il une transition que tu as trouvée plus difficile, soit de 0 enfant à 1 enfant, 1 à 2, 2 à 3. Est-ce qu'il y en a une que tu as trouvée plus difficile? Et si oui, pourquoi?
Bien, chacun avait comme son petit défi.
Ouais.
Je pense que la plus facile a été de 2 à 3.
Ah oui, OK.
La plus facile, je dirais, c'est de 2 à 3. Les enfants sont un petit peu plus vieux aussi, fait que, tu sais, t'es très conscient de Marley dans mon bedon, qui allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Fait que, tu sais, comme seconde 1 que Marley est arrivée, il était genre « Ah, c'est mon frère! » Puis...
Oui, ils sont plus autonomes aussi, peut-être?
Ils sont très autonomes. Tu sais, les enfants sont propres, juste ça. Tu sais, c'est très facilitant. Ouais. Ils jouent beaucoup ensemble.
Ils ont quel âge? T'es plus jeune?
Sydney vient d'avoir 4 ans, puis June a 2 ans et demi.
Ah oui, elle est propre à 2 ans et demi, c'est bien quand même.
Oui, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais ma fille, ça fait 1 an qu'elle est propre. Elle a été propre à 1 an et demi, puis mon garçon était propre à 2 ans. Fait que,
c'est quoi tes trucs?
J'ai pas de trucs. On dirait que tout le monde me dit ça. Je pense qu'il avait démontré des signes qui étaient prêts. C'est sûr que June, elle voyait son frère, puis ils ont 14 mois de différence, mais tu sais, pour eux autres, dans leur tête, ils n'ont pas tant de différence. Là, fait que ça le voyait aller à la toilette, fait que ça a été vite qu'elle y allait elle aussi. Okay. Elle a été propre à 1 an et demi, elle a commencé à travailler à propreté à 1 an et demi, elle était propre à 2 ans.
OK.
Mais fait que on parlait de ça. Ah oui, c'est la ça, transition. Parce que comme, tu sais, ils étaient plus autonomes, ils jouaient ensemble. Justement, tu sais, la garderie, il y a quand même plusieurs choses qui étaient plus faciles. Puis moi, j'avais une équipe de travail aussi qui était en place à Marley, alors qu'à Sydney puis à June, tu sais, je travaillais beaucoup tout seul. J'ai commencé à avoir plus d'aide quand June est née, mais tu sais, j'étais encore très, très là. Fait que là, je suis un petit peu plus reculée que je l'étais. Fait que j'ai plus de moments, tu sais, à la maison avec Marley, tranquille, à vraiment en profiter. Fait que pour moi, de 2 à 3, ça a été plus facile pour l'adaptation, tu sais, de parentalité. Puis Il y a plein de choses qu'on se pose comme pas tant comme question aussi. Là,
ouais. C'est pas ton tout... premier rodéo.
Non, c'est ça, exact. Fait que je dirais, ça coule un peu tout seul pour tout ce qui est soin du bébé. T'sais, prendre soin, c'est pour ça que ça va de soin. Ouais.
Mais le sommeil, ça non plus, c'était quand même correct vu que, mettons, Marley se réveille la nuit, il ne réveillait pas ses frères et sœurs. Ou...
Non, puis Marley, c'est le premier bébé qui dort avec nous.
OK.
C'est avant, dans le fond, mon gars, il avait dormi un mois avec nous, ma fille, une semaine. J'étais comme pas capable de dormir avec eux dans la même pièce. J'étais toujours réveillée. Puis là, je ne sais pas, encore là, c'est le dernier bébé.
OK. Okay. Il est j'aime ça avec... de savoir ça aussi.
Ouais.
Tu sais, tu as essayé différentes choses par rapport au dodo, le cododo et tout ça. Mm.
Puis même, je suis comme, tu sais, bientôt, on va le mettre tout seul dans sa chambre. Puis je suis un peu triste quand je pense à ça. Je trouve ça le fun de l'avoir vécu de cette manière-là.
Mm.
Fait qu'il y a comme tout ça qui a été plus facilitant au troisième. Le premier, c'est l'adaptation. C'est ton mode de vie qui change complètement.
Complètement, oui.
Tu sais, puis tu remanies ta vie amoureuse, tu remanies ta vie, tu sais, le travail, la maison, puis tout ça, mais aussi beaucoup ton cercle social à l'externe.
Oui.
Tu te remets en question beaucoup tes valeurs, ta propre éducation, tu remets tellement de choses en question avec ton premier, fait que c'est comme le gros bouleversement de ta vie qui change. Puis le deuxième, ben là, tu sais, tu as le premier qui réagit. Moi, il y avait 14 mois de différence, fait que c'était vraiment difficile. On était toujours occupés, tu sais, soit avec Ciné, soit avec June. Fait que c'était comme vraiment un gros rush. La première année a été intense. Puis là, après ça, il y a eu la pandémie. On les avait à temps plein avec nous autres. Fait que avec les entreprises, ça a comme été...
Ouais. Il y avait genre papi, mamie qui venaient vous aider aussi, j'imagine?
Non, pas du tout.
Ah non? OK.
Non.
OK. Non, pas du tout. C'est vraiment vous autres... vous êtes bons. Vous avez passé au travers.
Ben, quand on a passé à travers, on était comme, ben là, il n'y a rien de pire qui peut arriver. Faisons-en un troisième! C'est ça! on est capable de passer avec la pandémie tout seul, les deux temps plein. Fait que, let's do this again.
Avec trois enfants. Non, mais c'est pas rien. Même moi, je le dis à mon chum, on est 24-7 ensemble parce qu'il travaille de la maison. Puis moi, je suis à la maison. Depuis genre 2 ans, là. Puis avec un enfant, on top of that. Tu sais, c'est genre. Comme on est bien, on le réalise pas des fois, mais je veux dire, c'est pas évident pour tout le monde d'être 24-7 avec la même personne. Puis là, ça fait 2 ans non-stop, tu sais, je veux dire, faut reconnaître ces choses-là aussi. Tu sais, je trouve que ça fait du bien de se dire, hein, tu sais, je suis contente de savoir ça, tu sais, je suis contente d'être bien chez moi, d'être bien avec lui, avec mon enfant, tu sais, de pas... Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a des journées, moi aussi, là, j'aimerais ça me payer une chambre à l'hôtel puis juste avoir comme déconnecté, tu sais, mais on s'entend que, tu sais, plus souvent qu'autrement, ça se passe bien. Sinon, on aurait changé des choses, tu sais.
Oui, oui.
Mais quand même. Hein.
Non, c'est pas évident. Tu sais, pendant la pandémie, j'entendais beaucoup d'amis, tu sais, qui étaient seuls ou qui n'étaient pas en couple. Ils étaient comme, tu sais, ça pèse la solitude. Puis moi, j'étais comme, profite-t'en. J'ai hâte.
Oui, c'est ça.
Mais tu sais, pas, sans que c'est un soir compétition avec l'autre, mais plus de dire, tu sais, j'ai hâte d'avoir des moments seuls.
Oui.
C'est... Dans la maison aussi, parce que mon chum travaille aussi de la maison, fait que la maison, t'es jamais tout seul dans tes affaires. Jamais. Fait que c'est pas évident. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même une grosse bulle d'envie, qui est assez indépendante, qui aime se faire ses petites choses toute seule.
Ouais.
Mais ça prend un coup.
Oui, c'est ça. Fait que mettons, là, après notre discussion, toi, tu t'en vas chercher Marley, qui est avec ton chum en ce moment.
Ouais.
Passer la journée ensemble, tu essaies de travailler à travers tout ça. Ça ressemble un peu à ça, ton quotidien?
Oui, ben là, j'essaie de circonscrire au niveau du travail. Fait que ce matin, dans le fond, comme on va avoir fait le podcast, pour moi, ça va comme être rentré dans mon « je suis pas avec mon bébé ». Fait que c'est après-midi, je vais être 100% avec lui.
Mais on a parlé de bébé.
Bon, on a parlé de bébé. Mais dans le fond, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de me faire une journée vraiment pleine où est-ce que je vais au bureau. Normalement, c'est le mercredi, je m'en vais travailler au bureau. J'ai une gardienne qui vient à la maison, elle s'occupe de Marley toute la journée. Fait que là, je clenche tous les suivis, faire les suivis aussi avec l'équipe, puis les petites affaires qui pressent. Puis sinon, ben j'essaie de me prendre comme c'est ça, des petits blocs d'heures à travers la semaine pour répondre aux courriels, les urgences. Mais ce que j'essaie de circonscrire mieux, c'est le temps que je suis vraiment avec Marley ou avec les enfants, d'être comme 100% avec eux autres.
Ouais.
De lâcher un peu mon téléphone, puis tu sais, je dis ça, puis je suis comme, tu mens un peu, là, parce que la réalité, c'est que tu le fais pas vraiment, là.
Fait non, non, mais quand même, tu sais, d'avoir ça en arrière-pensée, là, d'être complètement disponible pour eux autres, là, c'est sûr que...
Ouais.
C'est sûr qu'on fait notre possible, là, c'est, mais c'est pas toujours...
On fait notre possible, mais tu sais, il faut que je me le rappelle de, ouais, de faire attention, puis tu sais, d'être connectée à lui, puis pas à d'autres choses, tu sais, pendant, ouais, pendant que j'étais avec lui. Fait que ça, j'essaie de le faire, puis tu sais, j'ai d'autres moments où est-ce que je peux aller au bureau, justement. Fait que voilà, c'est mon work in progress pour ça, mais ça me permet justement de me libérer un peu plus au niveau mental, puis de me sentir moins coupable aussi, parce que quand je fais d'autres choses en étant avec mes enfants, le résultat finalement est jamais bon, parce que je me sens coupable, puis j'ai fait les choses à moitié de l'autre côté, fait que c'est jamais...
Puis eux l'ont ressenti aussi que tu faisais autre chose, fait que là, eux autres aussi, souvent dans ce temps-là, sont moins contents, là, tu sais.
Oui, tu sais, mon garçon qui a 4 ans maintenant, s'il sent que je suis pas attentive, il me dit, là, maman, regarde-moi dans les yeux.
Oh, coco!
Fait que, tu sais, il me donne comme une intention d'écoute, là, pour que je sois 100% lui. Fait que là, quand il me dit, c'est un méchant miroir, là, tu sais, de faire comme, OK, là, oui, je te regarde dans les yeux, mon amour, qu'est-ce que tu as à dire, je suis toute là.
Mais j'aime ça comme phrase, quand même. Regarde-moi dans les yeux, maman.
Oui?
J'aime ça.
J'adore ça. Puis on le réutilise, là, en fait. Maintenant, on est comme, c'est ce que tu peux me regarder dans les yeux pour vraiment connecter. Puis...
Ah, j'aime ça.
Ça, c'est un autre sujet, parce que, mon Dieu, que la parentalité, c'est un beau miroir. Tu sais, c'est pas tout le temps facile, c'est tough.
Ouais.
Mais moi, ça m'a vraiment fait grandir. Tu sais, j'ai l'impression que je suis plus du tout la même personne entre le avant les enfants puis le maintenant. Tu sais, j'étais dans ce domaine-là, là, avant de lancer l'entreprise. J'étais en relation d'aide, thérapie. Puis... Mais on dirait que le fait d'être avec eux puis de grandir à leur côté, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma façon de penser, de réfléchir, puis dans mon désir de changer aussi. Mm. On dirait que ce qui me gosse de moi, ça me gosse vraiment pour vrai. Là. Puis tu sais, je veux vraiment me mettre en action pour le changer, parce que j'ai envie d'être une meilleure personne pour eux autres.
Tu sais. Oui, c'est vrai. On grandit tellement de tout ça. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler pendant, ben, comme on s'était dit, là, je veux dire, on aurait pu en parler bien, bien longtemps, mais merci de ton ouverture, de ta générosité là, dans les partages aujourd'hui, de ton authenticité aussi, tu sais. De le dire que justement, tu sais, c'est pas toujours rose la maternité, mais qu'on s'accroche quand même à tous ces moments-là, parce qu'il y en a beaucoup aussi, tous ces moments-là qui nous nourrissent comme... c'est indescriptible, tu sais.
Mm-hmm, tellement. Mm. Ben merci de m'avoir reçu. Merci pour cette belle conversation. Ressourçante pour partir la journée puis aller concentrer sur mon petit loup.
Oui. Puis là, aux auditeurs, là, on n'a pas répondu à toutes les questions. Il va falloir que Nancy revienne une prochaine fois.
Ben oui, puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit DM, ça me fait plaisir de vous parler aussi.
Oui. Ben, t'es fine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Passe une belle journée.